Bonjour à tous et bienvenue dans Critique Biaisée pour cet épisode numéro 4 dédié extraordinairement à quelque chose qui n'est pas une série, mais vu que nous avions dit que nous n'allons pas faire que des séries, ça tombe bien, c'est un média comme un autre, c'est Soul, la nouvelle production Pixar Disney disponible sur Disney+, qui nous en a mis plein les mirettes avec une magnifique animation et une histoire, comme d'habitude, assez formidable. Comme d'habitude, d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes avec Fumbi. Fumbi, pardon,
bonjour
Benjamin.
Bonjour à tous. Ah non, voilà, Fumbi, ça utilise des pseudos. Quelle honte, quelle indignité. Oui. Bonjour à tous.
Nous sommes avec Olivier aussi. Olivier qui est un petit peu loin, je crois, pas de son micro, mais géographiquement.
Salut à tous.
On ne saura pas. Aussi. On ne saura pas. On ne saura pas plus.
Où est-il? Bonjour. Que fait-il?
Je ne dévoile pas ma vie. Mais je ne dévoile pas ma vie privée.
Moi, je ne m'appelle pas par mon pseudo, c'est bizarre, pardon.
Bonjour Romain.
Salut.
Bon les amis, aujourd'hui nous sommes ici réunis pour parler du coup de Soul, comme évoqué. Alors on va se lancer dans le petit résumé pour expliquer un petit peu, alors, pour qui ne l'a pas vu, qu'est-ce que Soul, qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, Soul, tout simplement, c'est Joe, un professeur de musique de collège qui est passionné de jazz. Il a toujours voulu exprimer sa passion sur scène et tout d'un coup, bim, son rêve se réalise. Il va pouvoir jouer au Half Note Club, un célèbre club de New York City. Décidément, on aime pas mal New York dans ce podcast. Mais là, au drame, au désespoir, au vieillesse ennemie, une seconde inattention. Et on sait que quand on a une seconde inattention à New York, on peut décéder. Alors, ce qui lui arrive, son âme est... donc logiquement transporté dans l'au-delà et de fil en aiguille, dans cet au-delà, il va atterrir au You Seminar, qui est une étape dans laquelle les bébés âmes développent leur passion avant d'aller sur Terre et d'incarner un nouveau-né. Il va faire la connaissance de 22, de 22, et sa vision qui est un petit peu sombre de la vie. Et de son côté, Joe va tenter par tous les moyens possibles de retourner sur Terre. Et c'est donc de cette tribulation qu'on va suivre, et l'accomplissement, les évolutions des personnages tels que Pixar peut nous les donner.
C'est quand qu'on n'ait pas fait un résumé.
Oui, c'est vrai. Passons par les avis de chacun. Et nous allons commencer par l'avis très rapide, hein, comme évidemment à chaque fois, de Benjamin Fumbi.
Bon, pour un petit avis synthétique, je dirais que c'était un excellent Pixar, enfin un excellent film, pardon. Très joli, belle musique, belle image. C'est fluide, c'est beau, c'est agréable, ça se suit bien, c'est feel good, c'est tout ce qu'on veut. Est-ce que c'en est pour autant un bon Pixar? Le débat, je pense, sera tranché un peu plus tard.
Ah, la suite, le petit teaser, c'est magnifique. Pierre, toi qui as un nouveau micro et qui plus est des super ressorts sur ton bureau.
Oui, bah désolé, là, je sais pas comment ça se déclenche, c'est ma faute.
Non, c'est quand moi, ta main le touche.
Mais non, mais je faisais rien, enfin bref. De toute façon, c'est pas le sujet. Non, mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, je suis un peu. J'aime beaucoup tout ce qui est animation, de toute manière. Donc, j'étais déjà bien partisan. Il y a quand même pas mal de positifs, notamment ouais, sur l'image, sur le son, sur l'univers. Enfin, tout ce qui est, comme on disait, New York, le jazz et tout, ça donne très, très envie. Je trouvais qu'il s'embrouillait un peu dans son histoire. Il y avait un début sympa, mais la morale est apportée de façon un peu maladroite, à mon humble avis. Mais par contre, pour moi, sa vie parle le duo des deux personnages principaux. Donc, on a cité 22 et Joe. Et ouais, c'était pour un rendu intéressant. C'est peut-être pas le meilleur Pixar, clairement pas, mais ça reste qualitatif, quoi.
Cool. Olivier, qu'en as-tu pensé?
Ouais. Du coup, vous connaissez la blague, hein. Il y a le bon chasseur, le mauvais chasseur, etc. Pour moi, il y a un peu le même truc. Il y a le bon Pixar, c'est beau, ça interroge la nature humaine et franchement, tu chiales. Puis il y a le mauvais Pixar, quoi. C'est beau, ça interroge la nature humaine et t'as juste les yeux mouillés, quoi. Ça va pas plus loin. Donc, on est clairement dans cette seconde catégorie avec ce film, je pense. C'est un peu plus adulte. Je trouvais ça curieux. Je me demande quelle est la lecture que tu peux avoir en étant enfant par rapport à d'autres films où c'était vachement plus didactique, je pense. Bref, tout ça pour dire, c'est un bon film, mais peut-être pas un Pixar mémorable.
Ok. Intéressant, on aurait dû inviter en guest star un enfant, si vous connaissez. On peut le faire à
Nous aurions pris 30 ans de prison.
Romain, qu'en as-tu pensé?
Grand fan de Pixar, hein. Je suis assez mitigé. Je l'ai vraiment pas trouvé exceptionnel pour le coup. On est sur des thèmes. On ressasse des choses chez Pixar, j'ai l'impression. Ça se renouvelle pas trop. On est sur les thèmes de la mort. Donc, comme là-haut et comme Coco, on est sur des thèmes de l'au-delà avec vice-versa. Au final, c'est du mélangé. J'ai pas trouvé l'au-delà dans Soul très intéressant. J'ai trouvé très fade. Pas trop de profondeur. Après, techniquement, c'est très réussi. Techniquement, dans New York, en tout cas, c'est très réussi. Techniquement, dans l'au-delà, beaucoup moins, je trouve. Et voilà. Donc, c'est plutôt un mauvais Pixar pour moi. Mais on en discutera.
Ou un bon Pixar version Olivier, quoi. Comme le bon chasseur, voilà. Le mauvais chasseur. De mon côté, mon avis va être assez rapide. Pour moi, c'est juste un clip de campagne pour la future présidentielle de Benoît Hamon. Voilà, je vous expliquerai un petit peu pourquoi par la suite. Mais je pense que c'est clair. Une très bonne campagne de com. Les amis, partons maintenant sur le classique. Non pas question blitz, je vais vous faire une question blitz d'entrée, mais ça sera pour plus tard. Sur les thèmes que nous allons aborder. Et tout d'abord, on va être assez généraliste et on va parler de l'histoire. Je pense qu'il y a pas mal de critiques à faire. Vous avez tous dit, c'est peut-être en demi-teinte. Il y a l'au-delà qui est intéressant, mais pas forcément ouf. Je vous propose de déballer tout ce que vous avez à dire sur cette histoire de Joe, de 22, de ce qui se passe entre eux, de ce qui se passe dans l'au-delà. Allez-y pour les premiers qui veulent se lancer.
Bah, moi, je peux me lancer en premier. On y va, comme tout à l'heure, dans l'ordre chronologique. J'ai tendance à dire qu'une bonne histoire, c'est pas une histoire qui est complexe. On peut écrire une excellente histoire sur une feuille de PQ, littéralement. Une bonne histoire, elle tient à la façon dont elle est racontée. En l'occurrence, l'histoire, elle est pas très, très complexe. Elle est même extrêmement simple. Quelqu'un meurt, il rencontre une âme en devenir, il va devenir son mentor et lui apporter, on va dire, sa raison d'exister sur Terre. Bon, voilà, ça, c'est le plot. Maintenant, comment c'est raconté? C'est assez simple, malheureusement, également dans le récit, je trouve. Il y a de bonnes idées, il y a de bonnes intentions, il y a une bonne réalisation, mais c'est vu, en fait. C'est un peu ce que disait Romain tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression d'avoir déjà vu ce film un petit peu, ou en tout cas des parties de ce film. Et du coup, moi, j'ai eu du mal à me projeter dans cette histoire et à vraiment la vivre à 100%, parce que j'avais toujours un peu l'impression de voir autre chose derrière ça. Un autre film, une autre réalisation, quelque chose d'autre. C'est un peu mon problème avec le récit qu'on m'a donné, en fait.
Ok.
Oui, oui. Et là où je rejoins Benjamin, c'est que oui, c'est du revu. Et en plus, c'est du revu chez Pixar, quoi. Et c'est ça que je trouve dommage. Il y a littéralement Coco, quand même, qui traite quasiment le même sujet il y a 3 ans. Donc, la mort et l'au-delà. Et je trouve qu'ils l'ont bien mieux géré qu'ils l'ont géré avec Soul. Donc, c'est là où je trouve ça dommage, vraiment.
Vas-y, Olivier.
Alors, je trouve qu'il y a un truc intéressant. Il y a d'un côté l'histoire et il y a la morale, quoi. Quelle est la morale qu'on nous présente et l'histoire. Donc, l'histoire, c'est un peu l'histoire des deux personnages avec un contexte, etc. Et un peu quelles sont les complications, tu vois, de quelle situation on part et quelles complications, résolutions. Moi, j'ai trouvé que c'était parfois un petit peu complexe, pour être tout à fait honnête, qu'on s'y perd un peu. Vous avez plusieurs fois dit que c'était assez simple. Tu vois, de manière très... vu d'en haut, c'est effectivement assez simple. Hein. C'est ce que t'as donné Benjamin tout à l'heure comme description globalement du plot. Pour autant, sur la partie, justement l'histoire, moi je trouve que ouais, on s'y perd un peu. Il y a beaucoup de complications, des trucs qui sont pas si évidents que ça au final. Et alors sur la morale, clairement, je vous rejoins sur le fait que on sent que c'est un thème qui a déjà été abordé chez Pixar. Alors c'est pas étonnant parce que c'est le réalisateur de celui-ci, c'est Pete Docter, et Pete Docter, c'est à la fois le réalisateur de là-haut, c'est le réalisateur de Monstres et Compagnie, c'est le réalisateur de Vice-versa, le gars est un des auteurs et réalisateurs de la plupart de ces films-là. Et en fait, on voit plutôt, enfin moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est et après je vais arrêter le monologue. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est vraiment la progression dans ce qu'il raconte. Par exemple, avec Monstres et Compagnie, il questionne pas mal le côté fantastique, un petit peu ésotérique. Ensuite, avec Vice-versa, on est plutôt sur la biologie, puisqu'on te parle plutôt de comment nous on fonctionne et les personnalités des gens à travers la chimie en fait. Hein, il te parle des différents neurotransmetteurs, etc. Là où on est ici dans un truc un peu plus métaphysique, où on va chercher à raconter ce que c'est l'au-delà avec le grand après et le grand avant. Et alors, tout à l'heure, tu disais dans ton avis d'ailleurs que c'était un petit peu fade. Moi, j'ai trouvé ça vachement intéressant, à l'inverse. Sur la représentation, l'originalité de la représentation de l'au-delà. On ne sait pas, on t'a pas juste vendu un paradis. D'ailleurs, on s'en approche pas. On te parle vraiment plutôt de ce qu'il y a avant. Et ça, c'est assez original. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais trop entendu parler de ce grand avant, etc. Et j'ai trouvé qu'on, voilà, c'est cool, quoi.
Mais d'ailleurs, est-ce que c'est pas un problème d'ailleurs de caractériser ce film comme étant une représentation de l'au-delà? Certes, il meurt, mais le You Seminar, c'est finalement la préparation des âmes avant de naître. Donc au final, est-ce que c'est pas finalement un système qui est décrit, qui est pas le système de la vie après la mort, mais bien un système global de comment l'amener, comment elle se développe, comment on la développe, on étant ce qui se passe dans le You Seminar avec le système de mentor, etc. Et au final, je suis pas sûr que ce soit vraiment une critique autour de la mort comme était Coco, mais plus quelque chose de tout ce qui fait le monde qui nous entoure au final. Et c'est bien le sujet, parce qu'on va parler de passion, on va parler de calling, etc. Donc en fait, pour moi, c'est un faux débat. C'est pas vraiment la mort qui est traitée là, mais son ensemble. Pierre, tu voulais dire un truc?
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, même tout simplement parce qu'ils font en plus, je pense assez volontairement, ils ne montrent pas l'au-delà. Ils te montrent le chemin vers l'au-delà, mais ils font extrêmement attention à ne pas te le montrer. Et je pense que c'est volontaire et que ça oriente exactement sur ce que tu disais. C'est la volonté de dire que le film ne parle pas de la mort, il parle de ce qu'il y a avant la vie. Et la création de la personnalité, la poursuite de ses rêves ou pas, etc. Quoi. Mais d'ailleurs, parfois assez maladroitement, notamment l'idée que ta personnalité est définie avant ta naissance, qui je trouve un peu dommage, parce que pas du tout vrai, quoi.
Mais c'est justement ce qui est développé pour moi. Alors du coup, je jump un peu sur les thèmes, mais pour moi, justement, la conclusion, je vais de suite aller à la conclusion sur ce que j'ai compris finalement, c'est que au travers de 22, donc pour résumer et connecter un peu les points dans l'histoire, on va se retrouver avec 22 qui est un personnage qui justement n'arrive pas à trouver sa passion, parce que tout est sujet à passion, on parle beaucoup de passion du jazz, on essaie de donner des passions aux nouvelles âmes, etc. Et 22 n'en a pas vraiment. Dans tout ce qui lui a été proposé, elle n'arrive pas à vraiment déterminer ce pourquoi elle est censée être faite. Donc en fait, ça présente l'élément comme celui-ci, c'est-à-dire chaque âme doit avoir une passion, mais au final, 22 n'en ayant pas, et elle se rend compte qu'en vivant, elle est apte à aller sur Terre sans avoir pour autant découvert une passion nommée telle qu'elle. Et pour moi, la conclusion, enfin, ce que je comprends et ce que j'ai aimé du message de ce Pixar, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un calling, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose vraiment de physique qu'on sait. Thomas, c'est le piano, par exemple. Alors, c'est pas du tout le cas, vous inquiétez pas, hein, malheureusement. Mais voilà, c'est bien, en fait, la notion de la vie, elle sert juste à être vécue, en fait. C'est juste vivre pleinement sa vie qui fait qu'on a une vie qui fonctionne, qui réussit, qui est cool, quel que soit ce qu'on fait, quel que soit si on a une passion ou pas, si on a plein de choses, tu vois. Et c'est là la maxime du truc. C'est pas du tout la réflexion autour de il faut absolument avoir une passion. C'est l'inverse, tu vois. Ça dépasse ce truc-là.
Olivier, ils le disent à la fin.
Ah, pardon.
Ils le disent à la fin quand ils récupèrent le dernier point de son badge. Ils leur disent aux entités, au Jerry, de souvenir. Je lui ai fait trouver sa flamme, c'est je sais plus quoi. Et il rigole en disant non, mais la flamme, c'est pas une passion, un but ou quoi que ce soit, c'est quand vous êtes prêt. Il dit juste ça comme ça. Et en fait, c'est que toute la poursuite à travers une passion, avec tous ces grands mentors qui ont essayé de lui dire Aristote, etc., Gandhi, qui ont essayé de lui mettre en place des passions, des objectifs, c'était pas ça qui lui manquait. Et en fin de compte, ouais, le but de le film n'était pas du tout de chercher la passion de 22, je pense.
Tout à fait. Olivier, tu voulais rajouter quelque chose ?
Ouais, j'allais effectivement préciser la même chose, c'est que même dans le récit et le film, les Jerry disent c'est pas une passion, au contraire, c'est ils parlent d'ailleurs en anglais, ça parle mieux, ils te parlent de spark, donc c'est une étincelle. C'est vraiment le truc qui vient compléter ce fameux cercle et qui fait que c'est bon, tu peux y aller. Et ce qui est intéressant là-dedans, alors on l'a un petit peu abordé rapidement, c'est que une des limites peut-être de la morale. Et bon, c'était un peu ce qu'on avait prévu dans le deuxième thème, mais je pense qu'on a déjà commencé à bien en discuter. La morale, une des limites qu'on pourrait voir, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de nous vendre un truc très déterministe? C'est-à-dire que ça y est, t'as tes six petits composants, je sais pas comment les appeler, et donc c'est un peu qui tu es. Et en fait, je trouve que pas tellement, et je te rejoins Thomas, hein, c'est plutôt, je pense, une réflexion intéressante sur finalement. c'est quoi l'inné, c'est quoi l'acquis. Parce que finalement, quand tu nais et quand tu côtoies des bébés, là, j'ai fait la rencontre de mon petit-neveu, ils ont déjà une personnalité que tu peux aller percevoir, même quand ils ont, dans son cas, 8 mois. Tu vois déjà des ingrédients de la personnalité. Et évidemment que cette personnalité, elle va évoluer dans plein de directions différentes en fonction de l'environnement, du contexte, etc. Et donc, ce que j'ai trouvé vachement intéressant et original avec ce grand avant, c'est vraiment cette idée de... On t'explique un petit peu pourquoi il y a des âmes qui paraissent plus vieilles, plus sages, même très jeunes. Et pourquoi tu as une forme d'inné qui est telle ou celui-ci ou celui-là. Et donc, je trouvais que c'était une jolie explication, comme ils savent faire chez Pixar, et comme Pete Docter sait faire en réalité, hein, parce que c'est vraiment lui qui a la manœuvre sur la plupart de ces Pixar-là. Et j'ai trouvé ça vachement intéressant pour le coup.
Tout à fait. Fabi, tu voulais rajouter quelque chose?
Alors, Benjamin, je sens que j'ai laissé un...
Vas-y, Olivier, je t'en prie.
Ok. Désolé, je ne t'avais pas vu. Par contre, pour mettre un bémol à tout ce que je viens de dire, on ne va pas se mentir. Là, vu qu'on est un petit peu en train de traiter de l'histoire, j'ai trouvé que c'était un Pixar qui était moins bien ficelé que plein d'autres. D'habitude, ce qui est vachement bien foutu chez Pixar, c'est qu'ils ont des règles de l'univers qui sont hyper claires, etc. Bon, là, j'ai passé sur le bon coin, j'ai pu acheter rapidement un diplôme de médecine. Et apparemment, hein, ce qu'on nous raconte dans le film, c'est complètement pété. C'est-à-dire que si tu n'es pas mort, tu ne vas pas dans l'au-delà. Puisque là, ce qu'on voit, c'est que Joe, en fait... de manière très pratique, on pense qu'il est mort, on le voit aller vers l'au-delà, donc on se dit ça y est, il est en train de s'en aller, blablabla. Et en fait, pas du tout, il était juste dans le coma. Et là, tu fais bon, ok, déjà c'est bizarre. Puis ils reviennent sur Terre, et puis alors à plein de moments, enfin après, une fois qu'il est sur Terre, il n'y a rien de plus simple que de revenir dans ce monde-là, quoi. C'est, tu médites, tu peux revenir, tu fais, t'es en train de jouer de la musique, t'es dans le flow, tu peux revenir. Et en fait, je me suis dit, waouh, il y a plein de trucs qui sont bien moins ficelés que d'habitude, qui sont pas très cohérents. Encore une fois, maintenant j'ai un diplôme de médecine, je sais parler de ces choses-là. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de... Ouais, de plot hole, quoi, de manière générale.
Ouais, bah, complètement, c'est plein de...
Vas-y, moi, je t'en prie, vas-y, Thomas.
C'est, en fait, pour moi, c'est plein de bonnes idées, plein de belles choses, plein de bons éléments. On a quelques soucis de micro, on est désolé pour cette édition, mais c'est plein de choses, en fait, qui sont des excellentes idées. Moi, j'ai adoré cette notion de tu peux revenir dans ce monde-là quand t'es passionné dans quelque chose. On l'a tous vécu, je pense, tu sais, quand t'es pris dans un truc, t'es pris dans le flow et il l'illustre. Mais t'as totalement raison, Olivier, je suis d'accord avec toi, c'est le côté, c'est là, mais c'est pas forcément rattaché à d'autres choses, en fait. T'as plein de bonnes idées. Et ça se rattache pas forcément.
Ouais,
elle,
mais
quoi.
C'est chelou. Parce qu'en fait, symboliquement, tu pourrais te dire, oui, il y a un truc intéressant, mais ça raconte quoi? Ça veut dire que tous les gens qui méditent, ils voient des âmes s'envoler autour d'eux. Enfin, tu vois, c'est quoi le délire, en fait? Il y a des trucs qui sont un peu bizarres, en fait. Je trouvais ça charmant, hein, tu vois, et même ça donne prétexte à de l'humour. Tu vois, par exemple, le hippie qui les aide à progresser dans l'histoire.
C'est génial.
Franchement, c'est rigolo. Mais par contre, si tu prends juste les règles de cet univers qui nous est présenté, ça marche pas vraiment, tu vois.
Ouais. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose?
La façon dont je l'ai compris, moi, c'était en mode, quand ils sont dans ces situations de transe, de méditation, comme tu dis, c'est qu'ils sont dans cet univers sans le savoir. Mais vu que lui en est conscient, pour moi, il avait la capacité. Pour moi, vu que lui en était conscient, il avait la capacité de...
On dirait que tu fais de la méditation, mec.
C'est
les bruitages du film.
La passion du ressort.
Moi, dès que je fais ce bruit-là, je rentre en transe et je vais dans le monde de l'avant. Enfin bref, non, mais c'était un peu...
Tu pouvais y rester.
Ouais, je suis désolé. C'était un peu cette idée, ouais, maintenant qu'il en est conscient, il avait peut-être la capacité d'y retourner ou des trucs comme ça. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça, mais je n'ai pas spécialement creusé parce que pour moi, ça ne m'a pas spécialement...
Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que le hippie, il n'est pas mort.
Non, mais le hippie, il a fait une ascension dans des plans d'existence supérieurs. Tu vois, il a dépassé sa nature humaine, c'est
oui,
un être supérieur.
Et tous ses amis aussi. C'est un peu, non, mais c'est un peu c'est ce que disait Olivier tout à l'heure. Ça veut tellement s'expliquer tout seul que ça en devient trop simple. Enfin, c'est un gruyère, le machin. Tu peux raconter, tu peux croire à cette histoire, mais je pense que c'est un film qui s'adresse quand même à des personnes adultes, de par son sujet, de par la manière dont il est traité. Oui, et malheureusement, je trouve qu'il est raconté enfin, dans le déroulé du récit, comme si c'était raconté à un enfant. Regarde, ça, tu fais pas trop attention, ça, tu connais pas. Oh, mais regarde, ça, c'est un peu magique, ça, c'est un peu le Pixar, tu comprends. Moi, ça marchait sur moi quand j'aurais Toy Story, y a pas de souci. Le coup des jouets qui arrêtent de bouger et tout. Là, c'est trop flagrant pour moi à 30 ans passés, tu vois. Il y a des choses que je ne peux plus faire abstraction. Et sauf que c'est un peu le problème du film, en fait, en général.
Et encore une fois, Pixar nous a habitués à vachement ficeler son univers en ayant des règles vraiment, tu vois, intangibles, qui ne changent pas, etc. Et là, vraiment... Alors, si tu fais appel à la suspension d'incrédulité, moi, j'ai passé un bon moment dans l'ensemble et ça ne m'a pas forcément choqué. C'est en réfléchissant juste un peu après où je me suis dit, ouais, c'est quand même vachement plus pété que d'habitude, quoi. Et tu sens qu'il y a plein de trucs qui sont possibles parce qu'en fait, c'est pratique pour faire avancer l'histoire. Donc, comme c'est un Pixar, je suis un peu déçu. Ça n'a pas non plus gêné outre mesure pour la progression dans l'histoire et le message que ça raconte, quoi, de mon point de vue.
Il y a quelque chose qui a changé dans les Pixar avec, j'allais dire, ça fait... En fait, ce que tu te dis, Benjamin, dans la lecture, et c'est un peu genre un Disney, au final, tu sais, où t'as vraiment des trucs ultra enfantins et une double lecture. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé dans Pixar, justement, avec cet épisode où ça s'est Disneyfié ou...
Ça fait trop longtemps que ça appartient à Disney pour que ça ait changé maintenant. Ouais. C'est pas...
Oui,
de
voilà.
Et en fait, ça fait des années qu'il y a des mecs de chez Disney qui bossent chez Pixar. Enfin, ça fait des années que ça s'entremêle. Okay. Donc, de toute manière, en fait, il n'y a pas de lien, je pense.
Il y avait quand même une patte Pixar, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, sur les films dont je me rappelle. Mais après, c'est pareil. Est-ce que j'ai pas le biais un petit peu de souvenirs d'enfance qui va m'influencer dans mon analyse du truc? Mais quand j'avais regardé un Toy Story, par exemple, que j'aime beaucoup, j'avais quand même l'impression que tout se tenait à peu près bien, que c'était... Il y avait quelque chose de cohérent dans tout l'univers, même si jamais, bien sûr, c'était complètement fantasmé et qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait rien de crédible là-dedans, mais là, je ne sais pas, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si ça se Disneyfie plus qu'avant, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on essaye plus de te faire croire à quelque... Enfin, je ne sais pas comment dire. On essaye de faire croire que le plat est bon sans vraiment essayer de s'assurer qu'il l'est à 100%. Il y a un côté un peu superficiel, je trouve, qui s'est installé.
Ok, Olivier ?
Moi, j'ai une question pour vous. En fait, pour moi, le résumé un peu de tout ça, donc l'histoire, moi, je l'ai trouvée assez cool. Il y avait... Parfois, c'est un peu compliqué pour pas grand-chose et ils prennent plein de libertés, comme on vient de dire. Mais par contre, j'ai vachement adoré ce que je disais tout à l'heure, la représentation du grand avant, etc. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des sujets intéressants. Et on parlera peut-être un peu plus tard de la technique Pixar, donc je parlerai un peu plus, moi, de ce que j'ai kiffé dans les images et dans la technique. Mais du coup, il y a un truc qui est... Enfin, je me demande si ça vous a fait pareil. Je me suis rendu compte, en réfléchissant après une semaine, puisque ça va faire à peu près une semaine que je l'ai visionné, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'étais vachement plus attaché à l'univers qu'au personnage, en fait. C'est-à-dire que Joe, 22, ce qui leur arrive, ce qui, tu vois, en fait, ça ne m'a pas touché outre mesure. J'ai été beaucoup plus touché par le robot de Wally, quoi, où j'étais vachement plus attaché à son destin que à leur destin à eux. Par contre, j'ai vraiment, je garde un souvenir presque ému, mais vraiment sympathique et tout, de tendre sur l'univers qui nous a été montré, encore une fois, le grand avant et tous les trucs dont je parlerai un peu plus tard. Je
sais pas et si le vous, jazz vous avez aussi, ressenti peut-être. Un peu le même truc. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, ce qui reste pour moi, c'est le jazz. On n'en a pas parlé jusque-là, mais la musique est folle, je trouve. Enfin,
la BO est
l'ambiance,
folle.
L'ambiance est géniale quand ils sont dans le club. Tu sais, même dès qu'ils commencent à jouer dans la salle de son collège, moi, j'étais transporté. J'adore. Enfin, je pense qu'on aime tous la musique ici. Et du coup, c'était super cool, quoi. Les quelques notes de piano, là, bam, t'es dans le truc. Et en fait, t'as totalement raison. Ce qui reste a posteriori, c'est pour moi, effectivement, la représentation, parce qu'on est des... Je pense qu'on aime bien se faire des nouveaux cerveaux et tous ces trucs. On te propose une thèse avec pourquoi on existe et tout. C'est cool. Mais c'est aussi l'ambiance du truc avec à la fois la musique qui est ultra prédominante et ultra bien réalisée, et même New York en automne, je crois, tu vois, là, en y pensant, j'ai l'image de la feuille là, qui tombe dans la main de Joe, qui est incarné par 22 quand il est de nouveau sur Terre, bah ça, ça reste, tu vois, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est plus finalement une ambiance que vraiment un plot, et c'est peut-être ça qu'il faut garder.
Moi, je me suis... Tu te souviens quand on a été dans ce club à Harlem écouter du jazz?
Ouais, tous les deux. Vrai, exactement.
Moi, je me suis complètement revu là-bas. Donc, j'ai trouvé ça. Effectivement, on n'a pas trop parlé de New York et de cette ambiance-là, mais c'est un des premiers Pixar qui fait autant de place à la culture noire américaine, hein, avec l'utilisation du jazz, avec la visite dans les quartiers noirs à Harlem, le barbershop et l'ambiance qu'il y a là, la relation avec la mère et tout. Parfois, peut-être un poil idéalisé. on va pas se mentir, mais c'est cool quand même qu'un Pixar se lance là-dedans, parce que la représentation, ça compte. Clairement, le mood et l'utilisation du jazz, moi, je suis complètement d'accord, j'ai kiffé. Et c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la séquence, il y a une séquence qui je trouve, résume une vie humaine d'une minute, un peu vers la fin, où on a des flashbacks sur la vie de Joe, qui raconte un peu ce que c'est que la... Ouais, qu'est-ce qui fait le miel d'une vie humaine, quoi. Et ça, franchement, moi, rien que pour cette minute-là, je suis super content d'avoir vu le film.
Benjamin, je crois que vous avez
je réfléchissais un petit peu, en fait, à ce que je pouvais ajouter de plus, en fait, à ce beau déballé. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé l'imagerie en général du film. C'était superbe. Je ne peux qu'abonder dans le sens d'Olivier et du tien d'ailleurs, c'est qu'on se souviendra des images. Et c'est malheureusement tout ce dont je me souviendrai. Au moment de préparer un petit peu cette émission, il m'arrivait quelque chose de terrible. Je n'arrivais pas à me rappeler du nom des personnages. Joe, j'avais oublié son prénom. Et c'est d'ailleurs le seul personnage avec 22 duquel j'aurais pu me rappeler, puisque je crois qu'on évoque une fois peut-être le nom des autres personnages, qui font une apparition extrêmement brève, peut-être à part le hippie, mais même lui est très secondaire finalement.
Qu'on appelle d'ailleurs le hippie, quoi.
On l'appelle le hippie, voilà. Ce salaud de Biknik.
Pierre, du coup, n'hésite pas.
Et voilà, je pense. Oui, je t'en prie.
Moi, je pense qu'il y a un aspect volontaire dedans. C'est-à-dire que je ne suis pas aussi catégorique que vous, c'est-à-dire que les personnages m'ont intéressé, mais pas individuellement. Je pense qu'il y a une vraie volonté. Déjà, Joe, c'est littéralement le random Joe, quoi. À part sa passion pour le jazz, c'est pas un personnage ultra intéressant, ultra passionnant. Et ce qui va être intéressant, c'est justement mise en collaboration entre 22 qui découvre tout ce qui lui arrive, quoi. Et Joe, qui lui n'est pas spécialement intéressant, il fait contraste avec Socrate, avec Gandhi, avec tous les autres mentors qu'il a eu. C'est littéralement un mec random et qui va justement réussir tout de même à lui apporter quelque chose qu'elle n'avait pas. Et ne serait-ce que voir le monde à travers ses yeux, etc. Je pense que c'est ça, pour moi, qui est intéressant dans les personnages. C'est pas l'idée des personnages incroyables, mais c'est l'engrenage qui se forme entre deux. C'est-à-dire que, mis à part, c'est bof, mais les deux ensemble, c'est des séquences qui étaient très intéressantes. Toute la course-poursuite dans New York, avec elle qui s'émerveille pour tout, c'est vraiment littéralement fait pour te faire admirer cet univers à travers ses yeux. Il y a une volonté de pas te montrer vraiment le caractère, mais de te dire ce qui est intéressant, c'est le monde qui t'entoure et la façon dont elle le découvre et où tu te rends compte qu'elle s'émerveille pour tous les petits trucs de la vie que toi, tu passes outre maintenant.
Cette naïveté, un peu, clairement, qui fait du bien, ouais.
Non, mais je pense effectivement que la narration est conçue pour que tu t'attaches pas tant. Donc, je pense qu'on est assez d'accord finalement sur le fait qu'on a tous été plus attachés à l'univers, à des impressions qu'aux personnages, puisque la narration est faite comme ça. Parce que, en vrai, les personnages, pour le coup, moi, je les trouve pas si inintéressants que ça. Hein. 22, elle a une personnalité, un cynisme et tout qui est assez rafraîchissant et que tu attends pas venant d'une âme qui n'est pas encore née. Même le Joe, il est pas tellement random. Au contraire, ils lui ont donné une certaine épaisseur. Enfin, en vrai, c'est un mec assez antipathique dans le sens où il est tellement omnibulé par son truc que je pense qu'être un proche de ce gars-là, c'est l'horreur. Parce qu'en fait, il est malheureux tout le temps. Il pense qu'à une chose. Je pense qu'il est, c'est clairement le genre de pote qui va tout le temps oublier ton anniversaire parce qu'il avait peut-être un gig, tu vois, pour aller jouer, je sais pas.
Ta merde, quoi. Olivier, on a totalement bon anniversaire.
Oui.
On était un peu omnibulé par le podcast. Mais...
Vous avez compris mon message. Nymphe.
Regarde-le, là, comme il
ramène. Bon anniversaire! Je suis désolé, j'ai pas pensé, j'avais un gig, là, juste avant, enfin, je...
Et moi, j'étais avec Pierre, désolé.
Mais, en tout cas, ouais,
Joe
ce que
Goubin
tu dis, c'est...
Joe de Penn.
Ce que tu dis, en tout cas, c'est parfaitement vrai, ça se vérifie avec le coiffeur, d'ailleurs. Hein. Quand 22 est dans le corps de Joe, c'est la première fois où le coiffeur parle de sa vie à Joe, puisqu'il ne lui a jamais demandé, il s'en foutait complètement, en fait.
Ouais. Et d'ailleurs, pour moi, ça amène un autre truc. Ça amène à un autre truc pour moi, c'est qu'on pense que la relation de mentor ne va que dans un sens, et pour moi, elle va clairement dans les deux. C'est-à-dire que Joe apprend au final autant de 22 que l'inverse, où à chaque fois, tu vois des scènes quand il parle avec sa mère, quand elle interagit avec le coiffeur, où en final, c'est elle qui mène les rênes, et c'est lui qui est un peu en admiration, qui dit « Mais pourquoi moi, je ne me comporte pas comme ça ?» Enfin, des trucs comme ça, peut-être pas aussi littéralement, mais je pense qu'il apprend aussi beaucoup.
tout à fait. Et juste aussi également dans l'oubli d'anniversaire et la passion qui devient une malédiction quelque part, c'est un peu ce qui est représenté, tu sais, quand le hippie, il faudrait qu'on retrouve son nom, mais tu sais, qui navigue là avec son bateau, là, et que t'as toutes les âmes, c'est les âmes sont finalement omnubilées par leur passion et qui deviennent des espèces de gros monstres, etc. Alors t'as le trader, t'as plein d'autres, et même 22 à un moment donné de se renferme et tout. C'est pas exactement pareil, mais il y a cet élément qui est traité de la passion qui peut devenir une malédiction parce que justement elle t'obnubile tellement que tu n'es défini que par ça et du coup tu n'as que ça, c'est l'extrémisme de la passion, quoi, tu vois.
C'est pas tant la passion,
hein, Gambit is that you.
La passion, c'est pas vraiment la passion, hein, qui pervertit ces gens-là, c'est la pression sociale qu'ils subissent, c'est le stress, leur
l'addiction, leur,
et le caractère obsessionnel.
Voilà, ouais, exactement. Là,
en fait, c'est des obsessionnels. Ils pourraient être obsessionnels d'ailleurs. Tu vois, le trader, il est probablement pas passionné. Il est juste obsessionnel. Il est obsédé de faire de l'argent. Ce qui est... Non, mais peut-être que c'est sa passion, mais je suis pas sûr que c'est ça qu'on te montre. Et je pense pas, justement, c'est tout le temps dans l'ombre, cette histoire de la passion. Mais en réalité, toute l'histoire te raconte, parle de ce qui n'est pas des passions. C'est plutôt des comportements, quoi. Et en l'occurrence, je pense que c'est plutôt le comportement obsessionnel qui te conduit à être cette espèce d'âme esselée, etc., etc.
C'est d'ailleurs ce qu'est Joe sur Terre, en fait, finalement. Joe est la représentation sur Terre de ce qu'est une âme maudite, entre guillemets, dans l'avant, le monde d'avant. Puisque d'ailleurs, c'est ce qu'il fait quand il fait son premier concert. Il sort de la salle, il dit « Ah, c'est tout !» Tu vois, il a été tellement omnubilé, et quelque part, c'est à ce moment-là qu'il se libère, en fait, de son statut d'âme un peu maudite, en se disant « Ah, ma passion, en fait, il y a une baisse, tu vois, de tension chez lui, il y a une baisse de la cloche qui l'enfermait, en fait, se libère un peu, il réalise qu'en fait, il y a autre chose à côté de ça, tu vois, au-delà même de son rapport avec 22, je trouve, que c'est ce moment-là qui libère le plus dans l'histoire, moi. »
Moi, je sais pas. Moi, je pense qu'il était juste en mode méditation à chaque fois. Je suis pas sûr qu'il soit sur ce statut d'âme perdue. Je sais pas. Moi, j'ai pas senti comme ça.
Sa vie est modelée. Sa vie est modelée par la musique, tu vois. Il n'a aucune relation sociale. Il vit pas. Ses rapports avec les autres sont un peu noircis à cause de ça, tu vois. Et là, dans cette scène, j'ai eu l'impression qu'il se rendait compte que finalement, c'était pas tout, tu vois. Et qu'il lui manquait quelque chose au-delà de son rêve, entre guillemets.
Ça, c'est plus la conclusion de ses interactions avec 22 que la réalisation que son rêve n'aboutit pas. Parce que peut-être que s'il avait jamais rencontré 22 et qu'il avait joué son gig comme il voulait, peut-être qu'il aurait été au top de sa vie parce qu'il pensait jusqu'à présent que c'était son objectif, quoi. Moi, je suis pas sûr que ce soit en mode c'était une âme perdue qui s'est libérée. Après,
c'est probablement pas une dichotomie. C'est-à-dire, c'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Mais je pense que quand même ce qu'on te fait comprendre, ce qu'on te raconte, ce que Pete Docter nous raconte, c'est un peu le truc classique de Instagram versus reality, là, ce même qu'on voit tout le temps, quoi. C'est cette idée que si t'es tout le temps dans la projection à essayer d'être obsédé par ce que pourrait être ta vie au lieu de profiter de ce que est ta vie, parce que c'est globalement ça, hein, la moralité du film. En fait, tu ne peux que être malheureux. Et typiquement, et là, je rejoins complètement Benjamin, c'est-à-dire que ce qu'on te montre bien, c'est il revient de manière très égoïste, il revient en disant 22, casse-toi, moi je descends, je reviens dans mon propre corps et je vais faire mon truc. Alors que bon, il n'est pas censé, puisqu'il est mort, mais pas vraiment. Bon, bref, vous m'aurez compris. Il revient, il fait son gig et puis il se rend compte que. Ce qui se passe à l'intérieur, mes émotions, mon état émotionnel n'a pas changé. J'étais quelqu'un d'insatisfait qui ne se satisfaisait pas de la vie qu'il avait. Maintenant que j'ai un peu touché du doigt mon rêve, je ne suis pas différent, parce que moi, en tant qu'individu, je ne suis pas différent. Donc, je pense que c'est un peu cette réalisation-là qu'on essaie de te montrer et qui est vraie pour tout le monde. C'est-à-dire, quand tu es obsédé par un truc... Enfin, en gros, c'est assez connu. Imagine, je ne sais pas... Par exemple, on a Romain autour de la table. On sait tous qu'il voulait devenir footballeur professionnel. S'il était devenu footballeur professionnel, il aurait voulu un autre truc. Et en fait, c'est jamais assez. Et en fait, tu es toujours un peu dans cette... état de tension où tu te dis en fait je veux le truc d'après et si tu sais pas apprécier ce que t'as tu seras malheureux tout le temps, quoi. Et je pense à un peu ça à la moralité.
Non, c'est vrai.
Moi, j'aimerais juste en savoir plus sur le rêve de Romain, effectivement, de devenir footballeur professionnel. Ça fait 15 ans que
je vais bien, je vous l'explique bientôt parce que j'étais pas au courant. Donc, du coup, je vous l'explique au prochain podcast. Je vais y réfléchir et je vous dirai pourquoi je suis pas devenu footballeur, du coup.
Putain,
mais c'est sûrement une histoire de croisé à 16 ans. Je suis désolé, mais c'est sûrement ça.
La tuile.
Putain, t'as fait des croisades. Ok.
Je savais pas que t'étais si vieux, personnellement, mais bon.
Wow. Non,
c'est parce que les alors, amis. Moi, on m'a dit quand tu fais un podcast, il faut que tu vises large. Tu sais pas qui t'écoute. Donc, papa, je te fais des bisous.
Ton père fait des croisades.
Ouais, c'est perdu. Son anniversaire, il fait un câble, il lâche ses big ups.
Dédicace à papa. Bon, les amis, on a pas mal parlé de l'histoire. Je voulais juste faire un... on a traité, grosso modo, vous savez, on prépare le podcast avec des thèmes, des trucs, mais moi, j'aime bien ce méli-mélo. De toute façon, on n'avait pas prévu des trucs entremettant les différents thèmes. Du coup, ça va parfaitement. Mais je vous propose quand même de faire un petit focus. On a beaucoup comparé ce Pixar à d'autres Pixar. Et du coup, je voulais juste faire un petit point sur ce que vous pensiez de Pixar de manière globale. Olivier est en train de faire des gestes. Je pense qu'il essaie de me parler.
Fait de l'esprit.
J'essaie de mimer un blitz,
un moustique.
Mais c'est pas simple.
Ah oui, j'allais y arriver. Ouais. Et avant, du coup, de parler de la technique Pixar, je vous propose une question blitz. Et j'ai plusieurs questions blitz dans mon escarcelle. Du coup, j'en avais quatre. Je vais en choisir une. Peut-être jingle, mon cher Romain.
Ah, on est obligé, vraiment.
Mon cher numéro 10.
Et merde.
Le jingle.
En plus, ça tombe sur la seule personne qui aime pas trop le foot, quand même. Mais ok. La question blitz.
Et ça va être une question blitz double, parce qu'on n'a pas trop le temps, on a déjà évoqué beaucoup de choses. D'abord, très rapidement, est-ce que vous avez pleuré?
Non.
Personne n'a pleuré?
Oh non. Pas sur celui-ci. Putain. Impossible.
My God. Bon, ok, d'accord. Donc, on va aller de suite sur le Pixar. Du coup, je vous propose juste de dire votre Pixar préféré en un clin d'œil. Benjamin.
Wally. Oh,
je dirais Toy Story pour moi.
Olivier, Wally. Pierre.
Moi, c'est entre Toy Story et Wally aussi.
Et Romain.
Et Toy Story.
Et Wally, moi aussi. Putain, on n'est pas du tout originaux. My
ouais,
God.
Vrai,
moi, j'ai beaucoup aimé là-haut aussi. Moi, j'ai pleuré devant là-haut plusieurs fois.
Ah oui, là-haut, magnifique. Mais tu sais, c'est le poids de l'affect de l'enfance, moi, qui me. Toy Story, quoi. Tiens.
Ouais, je peux comprendre. Ouais, c'est peut-être le plus marquant. Ouais, Olivier.
Il l'a jamais vu? Non.
Je n'ai pas eu d'enfance.
Non.
Et c'est donc cet épisode de Critique Biaisée que nous annonçons le départ d'Olivier.
Allez, Olivier.
Il ne pourra pas rester parmi nous.
Attends, c'était la dernière.
Est-ce que tu n'as pas vu Toy Story, que tu t'es arrêté comme la Valla? Tu t'es arrêté en mode j'aime pas
non,
ça.
Non, c'est. À
l'époque, même thème à part
À l'époque, il y avait pas mal de trucs qui se passaient dans ma vie, mais globalement, c'était soit Toy Story, soit je regardais Le Rebelle sur TF1. Et bon, je n'ai pas fait le meilleur choix. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Ouais.
Donc, les amis, maintenant, j'aimerais savoir un petit peu. On a pris ce Pixar parce que c'est un Pixar, il est très tendance, etc. Mais qu'est-ce qui nous fait aimer Pixar? Pourquoi on est si accro et même si énervé quand Olivier n'a pas vu Toy Story? Qu'est-ce qui caractérise cet engouement qu'on a, Pierre?
Alors, il y a deux choses, je pense. Déjà, il y a ce que disait ce cher Benjamin tout à l'heure, c'est le facteur nostalgie, enfin, notamment pour Toy Story. Moi, pareil, c'est des trucs que j'ai regardés en grandissant et ça apparaît un peu comme un classique du Pixar, quoi. Et après, plus personnellement, moi, c'est simplement le médium du dessin, enfin, du film d'animation, du dessin animé que j'aime beaucoup. Parce que je trouve que c'est un des meilleurs moyens de transmettre un personnage, une idée, une histoire, tout simplement parce que tu modèles littéralement ton idée avec des outils informatiques. C'est-à-dire que pour moi, c'est la méthode parfaite pour transmettre quelque chose sans avoir à utiliser d'autres proxys comme des acteurs, des scènes.
Non, mais oui.
Mais parce que tout simplement, quand tu présentes un personnage que tu veux faire jouer, tu dois tomber sur l'acteur qui te plaît, etc. Alors que quand tu le dessines, tu as littéralement le visuel que tu veux, l'univers que tu veux, le décor que tu veux. Tout ce qui te limite, au final, c'est les moyens et ton imagination. Et moi, c'est quelque chose que je trouve absolument fascinant avec tout ce qui est... oui, c'est ça, dessin d'animation. Et c'est quelque chose que j'adore regarder. Et Pixar, c'est un peu la référence là-dedans, quoi. Donc, c'est incontournable.
Bah, moi, je rejoins ça. Puis, j'ajouterais que pour moi, un bon Pixar, c'est avant tout un récit intelligent, en plus d'être magnifique, bien sûr, puisqu'ils ont toujours été précurseurs de manière incroyable sur l'imagerie. Enfin, quand tu vois Toy Story à l'époque où il est sorti, sauf Olivier, évidemment, cette espèce de sac à merde. Et du coup, à part lui, voilà, tout le monde a pu se décrocher la mâchoire d'émerveillement et c'était incroyable. Et c'était intelligent à un point où tu le regardes petit, tu l'apprécies, tu le comprends, t'en es fan, tu le regardes 15 ans plus tard, tu le reverras pas le même film, parce que tu auras un point de vue différent et tu trouveras quand même de l'intérêt en tant qu'adulte. Ça, pour moi, un bon Pixar, c'est quelque chose que tu peux regarder dans 10 ans et l'aimer différemment, mais l'aimer tout autant.
Ça me donne envie de le revoir, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas vu en tant qu'adulte, Toy Story. Donc, Olivier, quand tu rentres sur Paris, ouais, je te propose qu'on se fasse une petite session sur Toy Story.
Attention, allez, Thomas risque de s'endormir.
Ça se tente.
Je me suis endormi devant quoi déjà?
Iron Sky. Mais... Et ça, te suivra à vie.
C'est un Pixar, Iron Sky? Non.
Oui. C'est...
Attention à ce que tu dis.
Du coup, alors, cette notion
vachement
de
cool
beau...
aussi avec... Ah pardon, excuse-moi. Ce qui est vachement cool aussi avec Pixar, donc là vous parlez de Toy Story, alors je ne l'ai pas vu, mais je peux en parler quand même, c'est ça qui est beau. C'est que c'est le premier film d'animation quand même, si on se remet dans le contexte, hein, d'animation faite en 3D. Il n'y a jamais eu ça avant, donc c'est les premières personnes qui se disent on va prendre des ordinateurs et on va faire un film juste comme ça. Donc justement, tu précisais sans acteur, c'était du jamais vu. Et ce que je trouve très fort, moi, dans les Pixar, donc on a parlé un peu de l'imagerie, etc., c'est qu'ils ont à chaque fois repoussé les limites du visuel et de ce qu'ils sont capables de faire, notamment les cheveux, c'est toujours assez bluffant. Enfin, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui sont la lumière. Là, par exemple, dans ce film-là, les couleurs de l'automne, la lumière et tout, franchement, tu prends des belles claques dans la gueule. Hein. Et ce que je trouve vachement fort chez eux, c'est cette capacité à se tenir loin de l'uncanny valley. Vous savez, ce concept de... Quand on rend quelque chose, quand on fait du dessin, de la virtualisation, de l'animation, etc., si, ou même des robots, d'ailleurs, si on les rend trop réalistes, il y a toujours un petit truc qui va trahir, qui fait que ce n'est pas des êtres humains véritables. Et donc, pour nous, ça devient ultra étrange, voire creepy, quoi. Et eux, en fait, ce qu'ils arrivent à faire, parce que là, quand même, on voit un New York, franchement, il y a des moments, c'est quasiment photoréaliste. Pour autant, les personnages sont cartoonesques, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop réalistes. Et ils arrivent à faire cohabiter les deux d'une façon que je trouve toujours assez bluffante, quoi. Et je parlais tout à l'heure de à quel point moi j'avais bien aimé la représentation de l'au-delà avec le grand après et le grand avant. D'ailleurs, on voit bien, même dans le style du dessin, de l'animation, que le grand après, donc l'au-delà, ce n'est pas du tout le propos du film, puisque c'est la version qui est ultra abstraite. Donc on voit une espèce de plein de pointillés blancs, etc., avec l'escalier qui monte. C'est la version ultra abstraite versus d'autres moments qui sont beaucoup plus concrets.
On dirait des Shadocks.
Ouais, franchement, c'est exactement ça. Et c'était la première fois. Donc moi, j'ai trouvé que ce film, il y avait une originalité visuelle, parce que ça fait bien longtemps qu'ils n'avaient pas innové, même dans le style. Vous voyez ce que je veux dire? Ils innovent à chaque fois en allant plus loin dans les shaders, dans la qualité d'eux, par incrément. Là, on a eu un truc où ils sont revenus même à des personnages 2D. C'est la première fois qu'ils font des personnages 2D avec ces dessins très cubistes, etc., pour les Jerry. Ouais. Moi, j'ai trouvé ça super. Franchement, ce truc-là, j'ai adoré, quoi.
Et puis, il joue avec. Moi, ça me pensait. C'est vrai que les Jerry aussi, mais l'accountant aussi, là, le comptable, là, qui,
Terry,
à un moment donné, part chercher les dossiers, Terry, qui part chercher les dossiers, là, et tout. Il joue vachement avec ce truc-là, mais t'as raison, ils amènent dans leur monde une nouveauté, et du coup, ils jouent avec ça, ils s'amusent. C'est vachement cool. C'est vrai que c'est, graphiquement, c'est.
Et ils ont joué avec les arêtes, les dessins. Ça m'a beaucoup rappelé cette série, je sais pas si vous la regardiez quand vous étiez petit, où c'était un personnage qui était un peu grincheux et qui était dessiné que d'une ligne. Toutes les frames, c'était qu'une seule ligne. Ouais, exactement, la linéa. C'était exactement ce truc-là que ça m'a rappelé, ce qui jouait énormément avec des effets visuels comme ça. Et tu as raison de rappeler qu'avec le comptable, on joue énormément dans le New York photoréaliste, il suit tous les contours des objets et tout. Enfin, honnêtement, c'est vachement intéressant et même c'est symboliquement intéressant parce que quand on fait des objets 3D, il y a une vue qui est une vue en arête et donc c'est un peu ça qui apparaît finalement dans le film avec cette utilisation des objets 2D. Bref, visuellement, honnêtement, allez-y, vous ne regretterez pas, c'est une grosse claque, en tout cas pour moi, sans parler de la musique qui, comme d'hab, est top.
Après, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que techniquement et même au niveau du son, c'est génial. Mais en fait, mais c'est un problème parce que, à part ça, il n'y a rien. Enfin, je suis désolé, l'histoire, je ne le regarderai sûrement jamais. Je pense que je ne le reverrai pas, ce film. Je n'ai pas envie, en fait. Même dans 10 ans, je ne le reverrai pas. Je pense que ce n'est pas un bon Pixar. Au final, c'est une démo technique, quoi. C'est une démo technique. Mmh. Ça, c'est presque une démo technique d'une heure et demie, au final. Moi, je suis un peu violent en disant ça.
C'est violent.
Je me suis pas ennuyé.
Ça fait mal.
Mais je ne l'enverrai pas.
J'ai pleuré devant le Pixar, mais je pleure devant ton commentaire. Je me sens...
C'est que les standards sont peut-être un peu trop aussi. Dans le sens
non,
où...
Non, même pas.
Parce que l'histoire,
je la trouve mauvaise. Par rapport à tout ce qu'ils ont fait,
non,
à part Cars, parce que Cars, c'est une honte.
Ouais, mais encore une fois, c'est une échelle de standard.
Non, mais il faut se souvenir qu'il a raté sa carrière de footballeur aussi. Donc peut-être qu'il est un peu aigri.
Voilà, c'est les tendons qui parlent.
C'est les ligaments qui parlent.
C'est
les ligaments croisés qui parlent. Non, mais je
pense que c'est
alors, Romain, t'as détesté. L'histoire, t'as pas embarqué.
Non, j'ai pas détesté. Mais c'est, j'ai trouvé ça, à la fin, j'étais déçu, en fait. Ce que j'ai rarement été pour Pixar, à part Cars, encore une fois. Et le monde d'Arlo, ça, c'était une, ça, c'est un délire pour moi aussi.
C'était mais quoi, ça
c'était un truc avec des dinosaures, c'était naze.
Celui-là était vraiment pourri, ça je suis d'accord.
Mais en fait, Cars, c'est pas très bon.
Ouais, c'est ça. C'est
oui, non, ouais, je suis déçu. Et du coup, je le reverrai sûrement jamais. Enfin, j'ai pas l'envie de le revoir, en fait.
Mais je le mettrais pas au même plan, moi, perso. Je le mettrais pas au même plan. Ouais, c'est-à-dire que c'est une histoire qui a un propos. Non, mais tu vois, Cars, etc., tu dis même le propos, la morale et tout. Tu vois, Cars, je pense que c'était la première fois où ils ont fait un espèce de Disney raté. C'est-à-dire, ils ont dit, on va juste parler aux enfants. Et donc, on abandonne un peu la recette classique, puisque, en fait, tu vois, quand on, ta question, c'était c'est quoi un bon Pixar et tout, au-delà de la technique et de la démo technique, qui là est complètement respectée, il y a aussi ce truc de l'univers ultra bien ficelé. On en a parlé ici, il y a quand même des trous à plein d'endroits, ce qui déçoit. Et il y a le côté multiples grilles de lecture avec vraiment beaucoup de profondeur. Et celui-ci, il y a de la profondeur. Je pense juste que la narration, elle n'est pas aussi bonne qu'elle devrait, que l'univers, il y a plein de trous, et donc ça déçoit. Et comme on l'a dit, peut-être que ce qu'ils ont rendu mémorable, c'est plus ou moins les impressions et le, tu vois, la construction de l'univers, plus que les personnages. Donc en fait, il manque ce, petit, ce supplément d'âme, en fait, hein, je ne sais pas comment le dire autrement, il manque ce supplément d'âme où t'as pleuré, t'as vraiment été attaché au personnage. Et là, moi, je pense que c'est essentiellement là qu'ils se sont ratés.
Ça, et puis justement, je n'ai pas l'impression qu'il y a une vraie double lecture à avoir sur celui-là. Je pense que c'est littéralement uniquement destiné, presque, peut-être que je me trompe, à un public adulte. J'aimerais bien avoir les retours de personnes plus jeunes, parce que je ne sais pas, j'ai du mal à voir avec mon point de vue, quelle est la morale pour un enfant ou un pré-adolescent ou un adolescent. J'ai du mal à visualiser qu'est-ce que ce film t'apporte. Parce que finalement, la vision qu'on en a, et on en avait parlé avant le podcast, c'est qu'au final, ça ne te dit pas poursuivre tes rêves, mais justement, au contraire, vis ta vie comme tu peux la vivre. Enfin, c'est peut-être mal l'expliquer, mais c'est pas la morale la plus obvious, n'est pas celle qu'on doit en tirer, quoi.
Non, mais la morale, en fait, encore une fois, c'est tout à l'heure, je parlais de Instagram versus reality. Une autre façon de le dire, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est exactement cette idée-là, en fait.
C'est mieux
que ça qui est raconté. C'est que ça qu'on te dit. En fait, on te dit pas qu'il faut pas avoir de passion et tout. On te dit juste, si t'en as une, bah, ok, mais prends juste des pauses et vraiment profite du voyage. Encore une fois, t'aurais pu être un footballeur de talent, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, faut que tu te souviens-toi plutôt des moments de camaraderie, sous les douches, Romain, enfin, etc. Quoi.
Ah, bref, ça, ils s'en souviennent.
C'est ça le truc important, et je pense que c'est ça le propos du film, en fait. Alors,
tout à fait.
Mais j'ai une question pour vous. Non, j'ai une anecdote, pardon. Je regardais un peu ce que autour de Pixar et tout, parce que je me disais, je vais essayer de. Vu que j'ai pas vu Toy Story, je me suis dit, il faut que je me rattrape. Et justement, parlons d'une anecdote autour de Toy Story. Est-ce que vous savez comment je ne sais pas si vous savez ça, mais lors d'un déjeuner de travail, donc sur Toy Story, tu as John Lasseter, Andrew Stanton et Pete Docter. Donc, ils sont les trois gros réals de chez Pixar, qui sont là depuis le début. Qui
Pixar, Lasseter, il n'est plus trop là. Il a eu des petits problèmes.
Non, il n'est plus là, lui. Lui, il a eu des petits problèmes.
Il a eu des petits soucis, lui.
Il a eu des... ouais, des gros soucis, même. Mais donc, en fait, c'était quand même les trois têtes d'affiche à l'époque. Et les mecs écrivent un peu tous les Pixar de l'époque. Et en un déjeuner de travail sur Toy Story, ils sont là pour parler de comment on revoit cette histoire pour la simplifier et tout. En gros, ils ont brainstormé ce qu'allait être Mille et une pattes, Monstres et compagnie, Nemo et Wally. Tout ça pendant le même déj de travail sur Toy Story. Donc, je ne sais pas ce que vous avez fait, vous, au déj. mais voilà, on peut aller se rhabiller, quoi.
Bah justement. Oui, non, bah effectivement. J'ai pas créé quatre films.
Et alors, ce que je trouve intéressant là-dedans, hein, c'est pour ça que j'en parle, c'est le côté... en fait, ça montre à quel point ils prennent beaucoup de temps sur les films. Un des secrets de Pixar, parce que, tu vois, Wall-E s'est sorti quand même vachement plus tard que Toy Story. Pourtant, en fait, la première idée, la première graine, elle a été plantée lors de ce déjeuner-là. Et donc, ce qui est assez cool avec la technique Pixar, pareil, je ne sais pas si c'est un truc qui est très connu, c'est que, en fait, quand ils développent l'histoire, et donc, normalement, c'est pour ça qu'ils ont un univers ultra ficelé, et donc, je ne sais pas trop où ils sont ratés là, mais bon, voilà. Ce qu'ils font, c'est qu'ils montent le film complet avec les bruitages et les voix, et la majorité des voix, complètement et plusieurs fois, sans l'animation, mais sur la base de dessins 2D, quoi. Vraiment comme un dessin animé, des vieux sketchs tout pourris. Et en fait, ils montent le film, ils font une projo, ils critiquent, ils cutent des séquences, ils refont, ils font un deuxième film, un troisième film, un quatrième film, parfois 5, 6, 7, 8, pour arriver ensuite à un truc où ils se disent « Putain, là, ça y est, on tient notre film. » Et c'est là où ils font la fameuse animation 3D que nous, on voit, quoi.
Mais j'en rêverais de voir ces sketchs, etc. Moi, c'est un truc que j'adore. Même des petits trucs, des fan-made avec des sketchs animés qui racontent une histoire, c'est un truc, je suis friand, quoi.
Je crois qu'il y a eu une expo à Paris il y a quelques années, et il y avait une bonne partie des sketchs qui étaient dispo, ouais. Et c'est une expo itinérante. Enfin, ça se trouve, je pense que si tu cherches, okay. Ça se trouve.
Non, mais je pense que ça ne se visite pas non plus les studios Pixar, à un moment donné. Ça peut être sympa.
Sûrement, je pense, j'imagine.
Les amis, excellent.
Disneyland, il n'y a pas un truc?
Chez Mickey, il y a des... Bonne question. Je ne pense pas qu'il a de manière expo. Tu as quelques dessins, tu as quelques sketchs, mais...
On doit avoir quelques trucs, quoi.
Ils ont des archives cachées chez Disney aussi.
C'est vrai qu'en parlant de Mickey, on parlait si ce n'était pas Disney qui avait influencé le dernier, mais de toute façon, Disney, là, depuis le départ. Hein. Enfin, c'est Disney qui a acheté tous les films, hein, depuis le début. Hein. Ils ont toujours financé, en fait. Donc, en fait, ça appartenait à Steve Jobs à l'époque, si vous connaissez l'histoire, mais qui a revendu à Disney en 2006. Mais Disney paye depuis Toy Story, en fait. Hein.
Oui, tout à fait, mais on voyait quand même la différenciation, tu vois, entre un Disney pur jus et un Pixar, il y avait quand même...
Mais toujours, maintenant,
c'est toujours le cas. Oui, c'est toujours le cas, en fait. Mais...
Sauf que les mecs de Pixar bossent chez Disney aussi, mais...
C'est devenu, en fait, le CEO de Pixar est devenu le CEO de toute Disney Animation, en fait.
Oui, voilà.
Donc, maintenant, ils chapeautent les deux studios, mais c'est toujours deux studios séparés, et ils chapeautent les deux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont fait de nouveau quelques bons films chez Disney, quoi.
Oui.
Très bien, les amis. J'avais juste une dernière question à vous poser, qui était une question blitz. Il y en avait deux, mais je prends la plus... J'ai vu Reddit récemment, il y a beaucoup de trucs sur la mort, c'est sympa, un subreddit assez cool, dont une que je trouvais assez fun, c'est quelle serait la stat la plus insolite que vous souhaiteriez savoir à votre mort ? Genre, tu meurs, et t'as le droit de savoir plein de trucs sur ta vie, tu vois, genre absolument tout, mais... Tu sais, une espèce de dashboard de ta vie. Et c'est quoi le truc le plus insolite que t'aimerais savoir sur toi, sur ta vie, ce qui s'est passé quand tu vois Saint-Pierre ou n'importe quoi, ce que tu représentes quand tu meurs. Je sais pas pourquoi je parle de Saint-Pierre, parce que je pense que je ne verrai pas Saint-Pierre. Mais bon, la petite lumière, tu vois, qui te dit « Hey mec, tu veux savoir une stat sur ta life ? » Bah vas-y, choisis. C'est un peu compliqué, vous avez pas eu le temps de le préparer, mais...
Un truc un peu what the fuck ?
Insolite.
Alors, je vais détourner ta question, je vais faire le politique. J'ai pas de réponse à cette question-là, mais ça me rappelle ce qui va être un peu ma recommandation culturelle, si vous voulez. Ça me rappelle un court-métrage que j'ai vu sur YouTube il y a pas très longtemps qui s'appelle La Mi-temps. Et dont le concept est un peu le même. C'est-à-dire que t'as un gars, l'histoire, c'est tu suis un gars, et d'un coup, tout se fige autour de lui. C'est le classique, lui, il continue à bouger, mais tout le monde est figé, le temps est arrêté. Il comprend pas trop. Et là, il voit un mec qui bouge encore. Il lui parle et le gars lui dit « Ah oui, c'est normal, t'es arrivé à la moitié de ta vie. T'as un choix, je vais te donner un choix, t'as 10 minutes pour choisir. Soit tu décides de repartir à zéro. On te donne la possibilité de revenir à ta naissance et tout ce que tu avais vécu jusqu'à présent, tu vas l'avoir internalisé sous forme d'impression, de déjà-vu, etc. Et potentiellement, si t'es pas très heureux de ta vie telle qu'elle est, tu peux espérer qu'elle ait une trajectoire un peu différente puisque tu vas profiter, même si tu n'en as pas conscience, de cette première expérience. Ou alors, tu peux continuer ta vie. Et du coup, je trouvais ça vachement rigolo. C'est un peu cette même idée que se déclenche un truc. Et là, en l'occurrence, ce n'était pas « t'as accès à une statistique, what the fuck ?» Mais c'est « est-ce que tu préférerais repartir en arrière, éviter les ligaments croisés grâce à peut-être un déjà-vu ?» Mais en fait, tu n'as aucune garantie que tu vas l'éviter cette fois-ci et que tu vas devenir un footballeur. Hein. Tu sais juste que tu auras des déjà-vus, etc. Ou est-ce que tu continues, quoi ? Bref, La Mi-temps sur YouTube, très cool.
Pas mal, ça donne envie. On saura pas ta stat du coup.
C'est clair, non, mais c'est, là, du coup la réponse.
Le mec est un politicien,
j'ai fait mon politique.
Si tu veux, il y a une tasse de vacances aux États-Unis en ce moment, tu peux y faire un saut.
Alors que Romain, on sait très bien que c'est qu'est-ce qui aurait pu advenir s'il avait réussi sa carrière de footballeur.
le nombre de buts qu'il aurait mis.
Je m'étais mis au foot déjà.
Qu'est-ce que ça aurait pu être?
C'est clair. Bon, je vais répondre parce que personne ne veut le faire.
Merci, Romain.
Je demanderais combien de litres de café j'ai pu boire dans toute ma vie, parce que je pense que c'est impressionnant. Je pense qu'il y a une belle stat là.
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas
moi,
mal.
Moi, j'avais autre
tout.
Chose, mais j'arrive à rien penser d'autre. Combien de cheveux exactement j'ai perdu? Ma vie est un enfer.
Faire ça aussi.
Sauvez-moi.
Ah, mais j'allais dire ça aussi parce qu'en ce moment, je me pose des questions, tu vois. Enfin, très certainement à fonder, mais en ce moment, je me pose des questions aussi. Et du coup, je me dis
oui,
si demain je devais mourir, j'aimerais confirmer ça avec Saint-Pierre aussi. Ou alors, savoir le nombre d'échecs et maths que j'ai raté depuis que je me suis mis aux échecs, parce que ça me frustre aussi.
Bah, t'as fait combien de parties?
Je suis pas sûr que ce soit sain d'admettre ça. On reparle d'obsession là, mais je pense que je me balade dans un désert de saoul.
Moi, j'avais le nombre de clics souris que j'ai fait de ma vie. Ça m'intéresse. C'est juste, à mon avis, c'est un très gros chiffre. Dans les réponses sur Reddit, il y avait des trucs cool du style le nombre de personnes qui m'ont aimé sans me le dire, le nombre de personnes qui ont pensé à moi dans toute ma vie et bah, sans que tu le saches vraiment. Et voilà, il y a plein de gens qui étaient assez... C'était assez auto-centré, les réponses, mais voilà, j'avais trouvé ça cool. Les amis, il y avait aussi une partie recommandation qu'on avait prévue en conclusion de cet épisode. Olivier, donc, t'as donné ta recommandation sur ce court-métrage YouTube-esque, qui a l'air très intéressant. Moi, j'avais comme reco quelque chose qui m'a fait penser en fait à ce Pixar. Dans la conclusion en fait du Pixar, c'est plutôt vivre sa vie, etc., le chemin, comme très bien dit par Olivier. Et moi, ça m'a fait vachement penser à La vie rêvée de Walter Mitty. Ce film qui est assez ouf sur un personnage assez standard finalement, un peu comme disait Pierre tout à l'heure, ou enfin quelqu'un qui disait que c'était il n'avait pas une vie formidable, etc. En fait, il vit une aventure de ouf juste parce qu'il décide de bouger, de faire quelque chose. Et en fait, c'est vraiment une ode à la vie, à vivre sa vie, à faire des choses. Et je trouvais ça assez cool. Ça m'a vachement fait penser en fait dans le Pixar en conclusion.
C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'avais pas pensé. C'est vrai.
Et la musique est ouf. Moi, je l'écoute à chaque fois que j'atterris. J'ai une playlist atterrissage où t'as la musique. je me souviens même plus du titre. Mais on ne peut pas la mettre à cause des droits. Mais...
Moi, j'ai pareil. J'ai Ride of the Valkyrie d'enregistrer là-dessus. Mais...
Ah, pas mal.
Toujours son petit effet quand tu commences à atterrir. Tu vois. Ta 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 ta.
C'est plus engageant.
C'est autre chose. On est sur un autre projet. C'est-à-dire que le pays va souffrir.
La chantonne pas,
en fait.
S'il te plaît. La chantonne pas à cause des droits, s'il te plaît. On ne sait jamais.
Oui, avec ma voix merveilleuse, on pourrait peut-être se faire capter par un bot.
Est-ce que vous avez d'autres recommandations ou est-ce qu'on arrête là pour ce super épisode de...
Moi, je voudrais recommander Toy Story à Olivier.
Exactement ce que j'allais dire.
Ça,
ouais.
J'ai pas d'autres idées. J'ai pas
vraiment c'était... Ça. Ouais, ça fait sens.
Si vous aimez les Pixar, matez des Ghibli.
Ah oui.
C'est vrai.
C'est marocain.
Et sur Pixar, si vous êtes intéressé, là sur une partie des anecdotes, etc., j'ai utilisé ça. Il y a un livre qui s'appelle Creativity Inc., qui est en gros le livre de Ed Catmull, qui est le CEO, fondateur de Pixar, qui raconte toute l'histoire de Pixar, en gros, et surtout comment ils ont conçu, pensé l'entreprise pour favoriser la créativité. Donc on y apprend notamment le rôle de Steve Jobs, et pas que, et enfin vraiment c'est... Ou pourquoi, par exemple, les toilettes étaient toujours très éloignées des bureaux, parce qu'ils voulaient que les gens de différents services se rencontrent. Donc il y avait genre... un seul truc de toilette par étage, ce qu'il disait comme ça, l'animateur il va croiser le scénariste, qui va croiser le je sais pas quoi, etc., etc. Donc ça raconte plein de trucs et c'est vachement intéressant de comprendre comment en fait Pixar, évidemment, s'ils arrivent à faire autant de cartons et à nous toucher autant, c'est aussi parce que bah, les mecs ils sont quand même super doués, ils ont tout réfléchi.
Alors qu'en vérité, la vraie raison c'est que le midi c'était Faritas à la cantine, mais ça on ne le dit pas.
Magnifique.
Tout ça pour façon de finir.
De rien.
Le mot de la fin. Le mot de la fin.
Vous toujours compter sur moi.
Faritas à la cantine. Merci à tous. Désolé pour les quelques glitches sonores et autres connexions que nous avons eues pour cet épisode.
Et le con.
Je dirais que c'était Soul, l'épisode Cursed. Âme maudit. Non.
C'est de plus en plus triste, les fins. On va finir. Allez, salut tout le monde. Au revoir. À la prochaine.
Je crois que j'ai préféré.
Benjamin ne sera plus là non plus.
Et oui, ce sera. Voilà.
Bon. Avec tout le monde.
Excellent.
Allez, bisous à tous. À très bientôt.
Au revoir.
Bisous tout le monde.